l'histoire populaire des États-Unis de 1492 à nos jours. Par Howard Zinn. Chapitre 5. Une étrange révolution. Troisième partie. Dans le nouveau régime, Madison allait appartenir aux côtés de Jefferson et Monroe au parti des républicains démocrates, tandis que Hamilton allait rejoindre Washington et Adams dans le camp adverse des fédéralistes. Les fédéralistes, représentant les milieux d'affaires du Nord, étaient partisans d'un pouvoir fédéral fort et souhaitaient construire une république à l'image de la monarchie anglaise. À l'opposé, les antifédéralistes, surtout représentés par les grands propriétaires terriens du Sud, voulaient établir une république décentralisée, non démocratique, donnant un fort pouvoir aux États. À la suite de la Révolution française, les fédéralistes deviendront anglophiles, les antifédéralistes francophiles. Les premiers sont en quelque sorte les ancêtres des républicains actuels, les seconds des démocrates. Mais ces deux individus, Madison et Hamilton, l'un propriétaire d'esclaves en Virginie et l'autre négociant de New York, s'accordaient sur les objectifs assignés au nouveau régime. Préfigurait en cela l'éternel consensus fondamental unissant les deux partis politiques qui dominent le système américain. Hamilton écrit dans un autre de ses Federalist Papers que la nouvelle Union serait capable de réprimer les oppositions et les insurrections intestines. Il se référait directement à la révolte de Chase. La situation orageuse dont le Massachusetts se remet à peine prouve suffisamment que de tels dangers ne sont pas pures spéculations. Dans la 63e des Federalist Papers, Madison, ou Hamilton, la paternité des textes n'est pas toujours clairement définie, mit d'ailleurs en avant la nécessité de se doter d'un Sénat judicieusement composé qui pourrait parfois se révéler nécessaire pour défendre le peuple contre ses propres erreurs et errements passagers. Il y a certaines occasions dans les affaires publiques où le peuple, emporté par sa nature instable, par l'attrait de quelques bénéfices illégaux ou égaré par la duplicité pernicieuse d'hommes intéressés, exige que l'on prenne des mesures que lui-même, plus tard, sera le premier à déplorer ou à condamner. En outre, dans ces moments critiques, combien pourra s'avérer salutaire l'intervention d'un corps modéré et respecté, composé de citoyens chargés de maîtriser les errements populaires et de s'opposer aux emportements de certains contre eux-mêmes jusqu'à ce que raison, justice et vérité reviennent calmer les esprits. La Constitution fut donc un compromis entre les intérêts des esclavagistes du Sud et ceux des affairistes du Nord. Dans le but d'unifier les 13 États en un unique grand marché commercial, les délégués du Nord souhaitaient une réglementation des échanges entre les États et insistaient sur le fait que de telles lois ne requièrent pour être votées que la majorité des votes au Congrès. Le Sud accepta, mais en échange de la promesse que l'on autoriserait le commerce d'esclaves à se poursuivre pendant encore 20 ans avant de songer à l'interdire. Charles Byrd insiste sur le fait que les gouvernements, celui des États-Unis aussi bien qu'un autre, ne sont jamais neutres. Ils représentent les intérêts économiques dominants et leurs constitutions sont élaborées de manière à servir au mieux ces intérêts. L'un des critiques de Byrd, Robert Brown, soulève un point intéressant. Considérant que le texte de la Constitution substitue à l'expression « la vie, la liberté et la recherche du bonheur » que l'on trouvait dans les déclarations d'indépendance, celle de « vie, liberté ou propriété », Pourquoi devrions-nous estimer que la Constitution n'a pas à défendre la propriété ? Comme l'affirme Brown à propos de l'Amérique révolutionnaire, pratiquement tout le monde avait intérêt à ce qu'on défende la propriété, car nombreux étaient en effet les Américains qui possédaient quelque chose. Pourtant, ne nous y trompons pas. S'il est vrai qu'il existait un grand nombre de propriétaires, il n'en reste pas moins que certains d'entre eux possédaient incroyablement plus que les autres. Un petit nombre de propriétaires pour une gigantesque part des richesses et une multitude d'autres pour bien peu de choses. Quant au reste de la population, ils ne possédaient rien du tout. Jackson Maine démontre que pendant la période révolutionnaire, un tiers de la population se composait de petits fermiers, et que seuls 3% de la population possédait effectivement une certaine fortune et pouvait être qualifié de riche. Néanmoins, ce tiers représentait un nombre considérable de gens qui estimaient avoir tout à gagner à la stabilité du nouveau régime. Il s'agissait pour le régime d'une base de soutien plus importante que dans n'importe quel autre pays du monde en cette fin du XVIIIe siècle. En outre, les ouvriers artisans des villes avaient eux aussi tout à gagner d'un gouvernement qui protégerait leur activité de la concurrence étrangère. Stroughton Mint s'interroge. Comment explique-t-on que les travailleurs des villes à travers toute l'Amérique aient, dans leur grande majorité et avec enthousiasme, soutenu la Constitution des États-Unis ? Ce fut particulièrement vrai à New York. Quand le 9e et le 10e État eurent ratifié la Constitution, 4000 ouvriers artisans de la ville de New York défilèrent en brandissant des drapeaux pour s'en réjouir. Les boulangers, les serruriers, les brasseurs, les menuisiers, les charpentiers des chantiers navals, les tonneliers, les charretiers, les tailleurs, tous défilèrent. La réponse qu'apporte Lind à sa propre question est la suivante. Bien qu'opposés à l'élite coloniale, ces ouvriers artisans n'en étaient pas moins nationalistes. Ils représentaient environ la moitié de la population de New York. Les uns étaient riches, les autres pauvres, mais tous plus aisés que le simple ouvrier, l'apprenti ou le journalier. Cette prospérité exigeait un régime qui les protégeât contre les chapeaux et les chaussures anglaises et tous les autres biens de consommation qui se déversaient dans les colonies après la Révolution. En conséquence, les ouvriers artisans apportaient souvent leur vote aux riches conservateurs. La Constitution illustrait donc parfaitement la complexité du système américain. Elle servait les intérêts de l'élite fortunée, mais faisait également quelques gestes en direction des petits propriétaires, des ouvriers artisans et des fermiers aux revenus modestes pour s'assurer leur soutien le plus large. Les gens modérément prospères qui composaient cette base formaient en outre un rempart efficace contre les Indiens, les Noirs et les Blancs pauvres. Elle permettait à l'élite américaine de conserver le contrôle de la situation avec un minimum de mesures coercitives et un maximum de législation. Tout cela rendu plus acceptable grâce au flonflon patriotique et unitaire. La Constitution fut encore plus acceptable aux yeux de l'opinion publique lorsque le premier Congrès, pour pallier les critiques émises ici et là, vota une série d'amendements plus connus sous le nom de « Déclaration des droits ». Ces amendements semblaient donner au nouveau régime le rôle des garants des libertés publiques, les libertés d'expression, de la presse, de culte, de pétitionner, de se réunir, d'être jugé équitablement et de pouvoir s'opposer à toute intrusion officielle dans son domicile. La libération avait tout pour élargir encore le soutien de la population au nouveau régime. Quelque chose, cependant, n'apparaissait pas encore clairement à cette époque où le langage de la liberté était une nouveauté et sa réalité non encore éprouvée. L'extrême fragilité de la liberté de tout un chacun lorsqu'elle repose sur le gouvernement des riches et des puissants. Problème se posait pour d'autres clauses de la Constitution elle-même. La clause interdisant aux États de porter atteinte aux obligations résultant des contrats, par exemple, ou celle qui donnait au Congrès le pouvoir de lever des impôts et de décider de leur affectation. Tout cela semblait sans conséquence et relativement neutre tant qu'on ne posait pas la véritable question. Imposer qui et pour quoi faire, affecter quoi au bénéfice de qui ? Protéger les contrats de tous pouvait paraître relativement juste et équitable, jusqu'à ce qu'on se rende compte que les contrats établis entre un riche et un pauvre, un employeur et un employé, un propriétaire et un locataire, un créditeur et son débiteur favorisent la plupart du temps la plus puissante des deux parties. Dès lors, protéger ces contrats, c'était ni plus ni moins mettre l'énorme machine gouvernementale avec ses tribunaux, ses lois, ses shérifs et sa police au service des privilégiés, et non plus, comme c'était le cas à l'ère prémoderne, par l'exercice de la force brutale sur la personne du faible, mais par force de loi. Le premier amendement de la Déclaration des droits révèle clairement la nature de l'intérêt qui se dissimule derrière le voile de l'innocence. Voté en 1791 par le Congrès, il stipulait que le Congrès ne fera aucune loi qui restreigne la liberté de la parole ou de la presse. Néanmoins, 7 ans après que ce premier amendement fut devenu partie intégrante de la Constitution, le Congrès adopta une loi limitant sans conteste la liberté d'expression. Il s'agit de la loi sur la sédition de 1798, votée sous la présidence de John Adams, à une époque où, à la suite des révolutions françaises et irlandaises, Irlandais et Français étaient considérés aux États-Unis comme de dangereux révolutionnaires. Cette loi qualifiait de crime toute propagation orale ou écrite d'opinions mensongères, scandaleuses ou malveillantes contre le gouvernement, le Congrès ou le président, dans l'intention de les diffamer, de ternir leur réputation ou d'exciter contre eux la vindicte populaire. Cette loi, qui viole directement le premier amendement de la Constitution concernant la liberté d'expression, fut immédiatement appliquée. 10 Américains furent emprisonnés pour outrage au gouvernement, et aucun des membres de la Cour suprême de justice réunie en 1798 et en appel en 1800 ne jugea cela contraire à la Constitution. Il existait un argument juridique autorisant cette décision de justice. Une raison bien connue des experts, certes, mais sans doute pas de l'Américain moyen qui devait se sentir à la lecture du premier amendement assez confiant quant à sa liberté d'expression. Cet argument juridique a été analysé par l'historien Leonard Levy. Levy explique qu'on savait assez généralement, pas dans la population mais dans les cercles cultivés en tout cas, que, malgré le premier amendement, le droit coutumier anglais sur la sédition, le Seditious Libel, continuait de s'appliquer en Amérique. En vertu de ce droit, si le gouvernement ne pouvait pas exercer la contrainte préventive, c'est-à-dire empêcher par avance la publication d'un ouvrage ou d'un texte quelconque, il pouvait, en revanche, en condamner juridiquement l'orateur ou l'auteur a posteriori. En conséquence, La simple condamnation, a posteriori, étant un excellent moyen de faire réfléchir à deux fois avant d'user de sa liberté d'expression, l'argument selon lequel on ne pratique pas la contrainte préventive devient nul et non avenu. Comme on le constate, tout cela vide singulièrement le premier amendement de toute consistance. Les clauses économiques de la Constitution subissent-elles le même sort ? Il est intéressant de souligner que le tout premier exemple nous est fourni par la première présidence de Washington, lorsque la possibilité accordée au Congrès d'imposer les citoyens et d'affecter l'argent à tel ou tel objectif fut immédiatement mise en application par le secrétaire au Trésor, Alexander Hamilton. Hamilton, persuadé qu'un gouvernement doit inévitablement rallier les plus riches éléments de la société afin de se renforcer, proposa dans ce sens une série de lois que le Congrès adopta. Une banque des États-Unis fut mise en place en une sorte de partenariat entre le gouvernement et certains intérêts financiers. Une loi sur les tarifs douaniers fut votée pour venir en aide aux manufacturiers. On tomba également d'accord pour rembourser les détenteurs de titres de la dette publique à leur valeur nominale la plus élevée. Soulignons que la plupart des titres émis pendant la guerre se trouvaient désormais aux mains d'un groupe très restreint de gens fortunés. Pour ce faire, on vota des lois fiscales, autorisant la collecte d'impôts aux seules fins de permettre le remboursement de ces titres. L'une de ces lois fiscales concernait le whisky, ce qui heurta particulièrement les petits fermiers qui produisaient le grain qu'ils transformaient en whisky à des fins commerciales. En 1794, les fermiers de l'ouest de la Pennsylvanie prirent les armes et s'insurgèrent contre la collecte de cet impôt. Hamilton conduisit lui-même les troupes qui réprimèrent cette rébellion. Force est donc de constater que, dès les premières années de son existence, certaines clauses de la Constitution, même celles dont on se félicitait tant, comme le premier amendement, furent bien légèrement traitées. D'autres, comme le droit de lever et de percevoir des taxes, en revanche, allaient être fermement appliquées en usant de la force armée quand cela se révélerait nécessaire. Pourtant, la mythologie qui entoure les pères fondateurs reste bien vivante. Proclamée comme l'hystérien Bebard Bailyn que « l'abolition des privilèges et l'invention d'un système politique qui exigea de ses dirigeants un usage à la fois humain et responsable du pouvoir était leur plus fervent désir », c'est faire silence sur ce qui s'est réellement passé dans l'Amérique de ses pères fondateurs. Les pères fondateurs étaient-ils ces hommes justes et sages, cherchant à garantir un juste équilibre ? En fait, ils se souciaient peu d'équilibre, à l'exception peut-être de celui qui permettrait de laisser les choses en l'état, c'est-à-dire un équilibre entre les forces dominantes de l'époque. Ils ne souhaitaient certainement pas rééquilibrer les rapports entre maîtres et esclaves, entre possédants et démunis, entre indiens et blancs. La moitié de la population américaine, d'ailleurs, n'était même pas considérée par les pères fondateurs comme participant aux forces concurrentes de la société, selon Bailyn. On n'en faisait mention nulle part dans la déclaration d'indépendance. Elle était également absente de la Constitution et demeurait parfaitement invisible dans la nouvelle démocratie politique. Ces absents par excellence, ce sont les femmes de la jeune Amérique.
Une histoire populaire des États-Unis de 1492 à nos jours.
Howard Zinn.